Exode chapitre 20, les versets 1 à 17. Il y a la même chose dans Deutéronome, si vous voulez. Il est écrit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni tes fils, ni tes filles, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Quand en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, elle s'est reposée le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » On avait commencé la semaine dernière à étudier ce décalogue, ou les 10 commandements, c'est plus connu sous cette appellation, hein, et il y a environ un peu plus de 3000 ans, 3 mois après justement qu'Israël est sorti d'Égypte, Moïse va monter sur le mont Sinaï et le Seigneur va lui offrir les 10 commandements. On avait vu la semaine dernière les 3 premiers commandements qui appelaient surtout à respecter la personne de Dieu. On pourrait diviser les 10 commandements en 2 parties. Une partie où on respecte Dieu, la personne de Dieu, et forcément ce respect de Dieu va pousser à respecter l'individu. On avait vu les 3 premiers commandements et aujourd'hui on va parler de 3 autres commandements. Quand je respecte Dieu pleinement, obligatoirement ça va avoir un impact sur moi et forcément sur le respect que je vais avoir vis-à-vis des autres. Si les gens s'entretuent, s'ils ne s'aiment pas, c'est certainement parce qu'ils ne respectent pas Dieu. Ils n'ont pas de point de repère, on pourrait dire, quelque part. Et donc le respect que je dois à Dieu, je dois l'étendre aussi à mon prochain. Et là, on va aussi parler de ce sabbat, hein, de ce repos que le Seigneur demande à chacun d'entre nous. Mais on va voir aussi qu'il y a des choses à apprendre, là. Donc le sabbat, vous aimez bien vous reposer ? Allez, je sais que vous aimez ça. Moi, j'aime bien. Je ne vois pas pourquoi vous n'aimeriez pas vous reposer. C'est agréable de se reposer après une semaine de travail. Il faut bien revenir dans l'ancienne alliance. Là, à ce moment-là, on est dans l'Ancien Testament. Et le sabbat parlait autrement que nous aujourd'hui. Le sabbat était dans la loi mosaïque et donc dans ses 10 commandements. Le mot sabbat en hébreu, ça signifie repos, jour de l'expiation. Donc il y avait quelque chose qui était lié là aussi. En grec, c'est sabbaton, c'est jour de sabbat, le sabbat ou jour de semaine, semaine. Bailly, qui est un dictionnaire grec plutôt profane, parce que j'aime bien aller voir ailleurs un peu que le dictionnaire biblique, il dit que c'est jour de repos chez les juifs. On pourrait parler de la semaine. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est que quand Moïse a eu ce commandement, les juifs, ils travaillaient 7 jours sur 7. Il n'y avait pas les 35 heures, comme aujourd'hui. Et certainement qu'au moment où Moïse a reçu ce 4e commandement, ça a dû faire bizarre. Tiens, on va pouvoir se reposer. Enfin, imaginez. Pour nous, c'est tellement banal, mais pour lui, ça devait être assez choquant, même peut-être, qu'il reçoive un tel commandement de la part de Dieu. Dieu était moderne à ce moment-là. Il ne parlait pas de 35 heures, peut-être, mais il était moderne. Hein, et souvent, on voit ça comme étant vieux. Aujourd'hui, alors, 35 heures, même moins, peut-être, c'est rentré complètement dans la société, et puis on a un autre jour de repos, on pourrait dire même plus, pour certains. Quand on regarde un peu le sabbat dans le Nouveau Testament, hein, là, il n'y avait pas encore vraiment l'Église, il y avait Jésus. Alors, on en parle avec les Juifs, et vous savez combien les Juifs ont repris Jésus à un moment parce qu'ils travaillaient ou guérissaient quelqu'un le jour du sabbat. Le problème avec la loi, c'est qu'on veut en faire encore un peu plus. Et les Juifs, à ce moment-là, on en fait encore plus et plus. Vous n'avez pas le droit de faire plus d'un kilomètre, etc. Ce n'était pas forcément ce que Dieu avait demandé aux Juifs de faire. Ils avaient 39 travaux primaires défendus le jour du sabbat, et puis ils ont étendu ça jusqu'à plus de 1000 choses que vous ne pouviez pas faire le jour du sabbat. C'est limite si vous pouviez sortir du lit, quoi. Enfin, pour certains, ça ne gênerait pas, mais quand même. Hein. Donc là, on dérape vers le légalisme complet, et c'est ce que Jésus, justement, allait reprendre pendant son ministère. Lui, il était plus souple, il a compris ce qu'était vraiment la définition du sabbat, et il va même guérir ce jour-là. Le sabbat est un moment de repos, c'est pas un moment pour s'imposer des règles complètement légalistes. Alors c'est valable dans le sabbat, mais c'est valable dans beaucoup d'autres domaines de notre vie chrétienne, où des fois on est trop rigide, alors que le Seigneur n'a jamais rien demandé. Dans la Nouvelle Alliance, le sabbat, et je pense pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore observer ce sabbat? Je parle comme il le faisait à l'époque. Alors la Bible ne donne aucun ordre à l'Église de respecter le sabbat mosaïque, on pourrait dire, ni d'imiter les coutumes des Juifs. Hein. On en avait parlé un vendredi soir, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais si quelqu'un veut pratiquer la loi, dit Jacques, il faut qu'il fasse toute la loi. Si vous voulez vraiment vous mettre sous le joug du sabbat, absolument, vous devez aussi pratiquer tout le reste de la loi. Et là, je vous défie d'y arriver, quelque part. Dans Colossiens, il est dit que nul ne doit être jugé pour l'observation d'une fête, d'un sabbat. On est encore au début de l'Église aussi, à ce moment-là, on passait du judaïsme aussi à l'Église, hein, donc il faut bien les comprendre. Certains distinguaient aussi dans Romains, par exemple, les jours, d'autres les trouvaient égaux. Donc il y avait une grosse réflexion dans la transition entre cette loi et l'Église et la liberté. Mais la Bible nous dit que le sabbat, ce sabbat était une ombre des choses à venir. Un ombre. Il y a quelque chose de plus grand qui devait venir, et forcément ce repos se trouve aujourd'hui en Jésus-Christ. C'est bien de faire la sieste, c'est mieux d'être sauvé. Enfin, moi, je préfère, quelque part. Et le repos que j'ai en Christ aujourd'hui, il est absolument complet. On va lire dans Hébreux 4, versets 3 à 10, dans le Nouveau Testament. Hébreux 3, pour mieux comprendre, hein, il y a une bonne définition là. Hébreux 4, versets 3 à 10. Hébreux chapitre 4, versets 3 à 10. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je le jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, bien longtemps après, comme il dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Une chose à dire, je n'ai pas le temps ce matin, mais Dieu a un repos pour nous, pécheurs, autrefois, ce pécheur qui n'était pas dans le repos, justement, va trouver en Christ ce repos que Dieu veut lui donner, absolument parfait repos. Hein. D'une certaine manière, j'ai envie de dire que notre vie chrétienne célèbre ce sabbat tous les jours, quelque part. Alors, je ne vous dis pas de vous reposer tous les jours, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais c'est un repos spirituel, évidemment. Je me repose dans mes activités, mais dans cette activité qui est sans péché, qui ne désobéit pas à Dieu. C'est vraiment agréable de ne pas pécher. À moins que vous aimez vous mettre en colère, que quelqu'un vous fasse du mal, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que c'est agréable d'être chrétien et d'être reposé dans ce domaine-là. La Bible nous dit aussi que le sabbat est une forme de sécurité, puisque j'ai ce repos aujourd'hui, mais j'ai un repos pour l'éternité. Alors oui, aujourd'hui, on est un peu fatigué, mais dites-vous que pendant l'éternité, on va pouvoir se reposer. Ça vous dit? Oui, je pense que ça vous dit. Hein. Mais on ne va pas faire que se reposer, je pense là. J'espère bien, d'ailleurs. Le sabbat est aussi un héritage, hein, c'est ce repos avec Christ pour toujours. C'est une grande dimension, ce sabbat, en fait. Hein. Et à l'époque, ce sabbat qui se faisait le samedi, en fait, le dernier jour de la semaine, va passer au dimanche, d'une certaine manière, même si on n'obéit pas à la loi. Mais l'Église se réunissait à ce moment-là, à partir du dimanche, et non pas le sabbat, le jour du sabbat. Hein. Le mot dimanche vient du mot « jour du Seigneur ». Ça vient du latin, hein, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Le huitième jour, donc premier de la semaine, se trouve également dans les ordonnances lévitiques, par exemple pour la prise en fonction des sacrificateurs à l'époque. Ça se faisait pas le lundi, on pourrait dire, le premier jour de la semaine. Dans l'Église primitive, nous voyons que le dimanche correspondait également à d'autres activités. Par exemple, dans Corinthiens, on voit que les chrétiens mettaient de côté leurs offrandes le premier jour de la semaine. Donc, le dimanche quelque part pour nous. D'autres arguments qui valident le fait qu'on se réunisse le dimanche, c'est que, par exemple, Jésus avait décidé de réunir les disciples deux fois le dimanche. La Pentecôte est passée aussi le dimanche. Enfin bon, il y aurait beaucoup d'arguments comme cela. Donc on n'est plus sous la loi, d'abord. Premièrement, on n'a pas à se réunir le samedi. Et une deuxième chose, c'est que quand même, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que l'Église se réunissait le dimanche. Donc vous êtes le bienvenu le dimanche matin à 10h au culte. Vous voulez me voir tout à l'heure si vous voulez plus d'arguments. Mais bon, ce qu'il faut savoir, une chose, c'est qu'à l'époque, le sabbat, quand il n'était pas respecté, il était puni de mort. Alors aujourd'hui, le Seigneur n'est plus comme ça avec nous. Mais quelque part, il y a une réflexion à avoir. Si je me prive du dimanche, quelque part, je ne vais pas être condamné à mort, merci Seigneur, je ne veux pas. Hein, mais quelque part, je me prive de quelque chose. Et c'est peut-être la leçon qu'on peut tirer aussi, de se priver de cette communion fraternelle, de ce jour que le Seigneur veut qu'on lui consacre. Le sabbat rappelle le besoin de l'homme aussi, quelque part. D'abord, on a l'exemple de Dieu lui-même qui s'est reposé le septième jour. Croyez vraiment que Dieu avait besoin de se reposer? Il était fatigué? Honnêtement, je ne pense pas. Pourtant, il ne s'est plus à s'arrêter dans son travail et il nous traite tout simplement de la manière où il s'est traité lui-même. C'est ça qui est intéressant. Dieu s'est reposé et parce que lui s'est reposé, il veut aussi qu'on se repose à un moment. Le sabbat, c'est un cadre de vie et la Bible dit 6 jours pour l'homme, on va exploiter notre travail, etc. Un jour qui est consacré à Dieu, tout simplement. Et le sabbat, vous savez, ça, à l'époque en tout cas, ça imposait un repos absolu. Aujourd'hui, on dit on va se reposer, mais on va faire un tas de loisirs, on va bouger dans tous les sens. À l'époque, on ne bougeait pas. Tout le peuple s'arrêtait. Un peu comme la neige le mardi. Tout s'était arrêté. Moi, j'ai bien aimé. Je suis allé faire mes courses tranquillement, il n'y avait pas de queue, rien. Mais là, tout s'arrêtait. Et c'est là où on ne comprend pas souvent ce qu'est le sabbat. C'est vraiment un moment où on s'arrête, tout simplement. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'on a besoin de se reposer. C'est un repos physique dont on a besoin, qui est absolument vital pour notre équilibre de vie. Si Dieu lui-même s'est reposé le septième jour, qui n'était pas fatigué, nous-mêmes qui sommes fatigués, nous avons besoin de nous reposer. Le repos biblique, on a toujours tendance à croire que c'est rester sous la couette, faire des loisirs, etc. Ça n'a rien à voir du tout. Le repos biblique, c'est simplement chercher la face de Dieu. C'est prendre un temps où j'arrête tout et où je cherche la face de Dieu. Et combien j'en ai besoin? Parce que dans la semaine, je n'ai pas souvent le temps de le faire. Et puis ça va tellement vite. Je m'arrête à un moment et je fais le point. Et je cherche le Seigneur dans ma vie. C'est un jour pour s'oublier. On a 6 jours pour nous. On peut être actif et tout ça pour son travail. Mais il y a un jour qui est destiné au Seigneur. On n'est plus sous la loi. On n'est pas obligé de le faire. Mais c'est un conseil en tout cas que la Bible nous donne. C'est un jour de contemplation des œuvres de Dieu. À l'époque, le sabbat, c'était aussi un moment de souvenir de la délivrance du peuple juif de l'Égypte. Et on s'arrêtait et on pensait à tout ce que Dieu avait fait pour, justement, les Juifs à ce moment-là. Eh bien, le dimanche, c'est exactement la même chose. On s'arrête, on regarde ce que Dieu a fait pour nous. Il faut du temps pour ça. On ne peut pas contempler Dieu, on ne peut pas le remercier si on court. Il faut savoir s'arrêter et contempler tout simplement la grâce de Dieu pour nous aujourd'hui. Je pense que c'est un repos spirituel aussi. Le sabbat, le mot sabbat, ça veut dire sanctifier. Et sanctifier, ça veut dire en hébreu être mis à part. Quand je me repose, je mets à part un temps, quelque part pour imiter Dieu et pour prendre du temps aussi avec lui. C'est vraiment une mise à part. C'est un jour pour le Seigneur où je vais le contempler, tout simplement. C'était un repos, je pense, aussi à prendre au sérieux. Je dis ça, après, je sais qu'aujourd'hui, on doit travailler des fois le dimanche, ce n'est pas évident pour certains, mais je dois le prendre au sérieux. Et vous savez, si on remplace le dimanche par autre chose, à un moment, ça devient une forme d'idolâtrie aussi. On avait vu ça la semaine dernière. Je sais qu'on ne peut pas être là tout le temps, mais on se comprend. C'est un jour pour le Seigneur. Non seulement c'est un jour pour Dieu, mais c'est un jour qui est important pour moi, parce que moi, je recharge mes batteries. Faites l'essai de ne pas venir pendant une année à l'église. Allez voir dans quel état spirituel vous allez être. Faites l'essai, vous allez voir. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous attirent autour de nous. Dans l'Ancien Testament, il faut savoir que le peuple juif avait volé des sabbats, parce qu'il ne les respectait pas à un moment. Et la punition de Dieu, ça sera qu'ils vont être déportés pendant 70 ans. On connaît ça, vous connaissez un peu l'histoire d'Israël. Parce qu'on lui avait volé les sabbats. On n'est plus sous la loi. Mais Dieu dit là, quelque part, c'est à moi. C'est important pour moi. Et donc, je pense qu'on peut en tirer cette leçon au moins. Dieu attend ce qu'on lui rende un culte le dimanche. Je crois qu'il aime quand on est là, non? Et je crois qu'il est d'autant plus content aujourd'hui parce que vous êtes presque tous là, et ça, ça me fait plaisir. Mais Dieu est heureux quand ses enfants viennent l'adorer, non? Il n'a pas l'air convaincu. Lui, il est convaincu, ça, j'en suis sûr. C'est une chose sérieuse, je pense. Nous vivons au quotidien le repos de Christ parce que depuis qu'on est chrétien, on peut vivre ce repos. Mais le Seigneur aime aussi qu'on prenne du temps pour venir l'adorer, le louer et le célébrer. Le cinquième commandement parle d'honorer ses parents. Ah, là, les jeunes qui se sentent d'un coup ciblés. Hein. Honorer ses parents. On va lire dans Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6, les versets 1 à 4. Éphésiens 6, versets 1 à 4. Il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents ». Ça vous plaît, les jeunes? Il n'y a pas beaucoup de jeunes ici, mais vous êtes aussi fils de parents. Hein. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Hein, » il reprend l'Ancien Testament et le Décalogue. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, et vous, pères, ça travaille ensemble. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Aujourd'hui, il faudrait effacer ce verset parce que la mentalité, c'est plus du tout cela. Honorer ses parents. Les parents ont droit à l'honneur de leurs enfants. Le mot hébreu honorer, ça veut dire endurcir dans une première définition, mais honorer, glorifier, rendre gloire. On veut rendre gloire d'une certaine manière à ses parents. Alors souvent on dit, il y en a qui pensent honorer les parents, ça veut dire leur donner toujours raison. C'est pas vrai, c'est pas ce que ça veut dire. On peut rendre gloire à quelqu'un qui n'a pas forcément toujours raison. Parce que, excusez-moi, je vais le dire, je vais les faire lyncher par les parents tout à l'heure, mais les parents n'ont pas toujours raison. On est bien d'accord. Mais souvent plus que les enfants, j'espère. Mais c'est pas leur donner toujours raison, c'est simplement la volonté de respecter ceux qui nous ont donné la vie et ceux qui s'occupent de nous. Et aujourd'hui, ces choses-là disparaissent de plus en plus. Bon, il y a un travail dans les deux sens hein, aussi. L'enfant est appelé à obéir à ses parents, que ça lui plaise ou non. Vous aimez obéir? Quand vous étiez jeune, souvenez-vous hein, combien vous étiez obéissant à vos parents. Surtout moi, un grand modèle. Mais le Seigneur, quelque part, nous dit que si j'obéis à mes parents, si je les honore de cette manière-là, lui-même est honoré aussi. En honorant les parents, je suis en train d'honorer aussi Dieu. Et c'est ça qui est très important. Mais pour que l'enfant se mette à honorer les parents, je pense qu'il y a besoin d'éducation. Sinon, ça ne va pas se faire tout seul. Un enfant livré à lui-même ne va jamais honorer ses parents. Ou alors, il y a vraiment un miracle. Et donc, c'est aux parents d'enseigner ce commandement à leurs enfants. Dans Timothée 5,8, il est dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il renie la foi, il est pire qu'un infidèle. » Dieu demande aussi aux parents de prendre soin de leurs enfants. Autrement, ils renient leur foi. Mais souvent, on se braque sur les soins, on va dire, physiques. On donne de l'amour, c'est très bien tout ça. On donne à manger, on donne une éducation. Mais on pense moins souvent aux soins spirituels. Et ça, ça fait partie du package des parents qu'ils doivent enseigner à leurs parents. Est-ce que vraiment, dans l'exercice de mon éducation pour mes enfants, est-ce que cela fait partie du lot? Est-ce que je veux vraiment éduquer mes enfants spirituellement aussi? Les parents sont responsables de ça, devant Dieu. Ils doivent apprendre à leurs enfants de connaître Dieu. Et moi, je pense qu'aimer ses enfants, c'est aussi désirer qu'un jour, ils se convertissent. Alors, ça ne dépend pas des parents, ça, on est bien d'accord. On va prier pour eux, on va les enseigner, on va essayer de faire un culte de famille si c'est possible. On va les amener à l'église ou dans les groupes, etc. Mais aimer ses enfants, c'est aussi les voir sauvés. C'est tellement important. Et je pense que l'enfant va apprendre à honorer ses parents si... L'enfant va apprendre à honorer Dieu si il commence à honorer aussi ses parents. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas naturel chez l'enfant. C'est à nous, en tant que parents, de les conduire à cela. Vous savez, on récolte ce qu'on sème. Hein. Si on prive les enfants, peut-être de l'église, de nourriture spirituelle, etc., parce que moi, des fois, je suis paresseux, ben, quelque part, je les prive de quelque chose. Aussi, souvent on pense à nous, parce que je n'ai pas envie de venir, j'ai pas, voilà, je suis fatigué, je veux bien. Mais quelque part, je les éloigne aussi un peu du salut. Dieu peut faire plein de choses, on est d'accord. Mais j'ai aussi une responsabilité là-dedans. C'est important pour nos enfants. Et il y a une promesse qui est liée. Là, on revient à nos enfants. Hein, alors, revenons dans le contexte de la loi, parce que c'est la loi qui le dit. Hein, c'était une promesse de prolonger la vie dans le pays qui a été donné à ce moment-là par Dieu. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez vivre beaucoup plus vieux. Mais Paul reprend justement cette promesse. Et il dit que si on honore les parents, on sera heureux, on va vivre plus longtemps peut-être. Mais de toute façon, à partir du moment qu'on obéit à Dieu, des choses se mettent en place aussi dans notre vie. On va vivre autrement cette vie-là. Si je me discipline, juste par rapport à la santé, il y a un tas d'autres choses. Forcément, il va y avoir une espèce de stabilité et de longévité pour ma vie. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tous vivre jusqu'à 250 ans. Je suis désolé. Hein. Ça fait vieux quand même, 250 ans. Hein, ouais. Mais il y a une promesse. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que s'il y a promesse, ça veut dire que Dieu nous voit en tant qu'enfants, notre manière, notre attitude vis-à-vis des parents, et réciproquement, Dieu nous voit en tant que parents, comment nous éduquons les enfants. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui, parce que dans ce monde, ça devient du grand n'importe quoi. Donc, à réfléchir. Vouloir respecter Dieu, ça passe d'abord par honorer les parents, et puis inversement, les parents qui sont en train d'éduquer les enfants. Le commandement numéro 6, tu ne tueras point. Je veux dire, pourquoi ça me concerne? Je ne pense pas que vous ayez tué quelqu'un. On tue le temps généralement, mais pas quelqu'un. Mais il est dit là, tu ne tueras point. Le verbe tuer en hébreu signifie tuer avec colère, avec préméditation, avec l'idée aussi de se venger de quelqu'un. On ressent toute la violence dans le verbe hein, de tuer quelqu'un. Genèse 9, 5 à 6 dit. « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Dieu redemandera le sang de quiconque tue son prochain. Vous savez, quand quelqu'un tue une personne, il s'oppose à Dieu d'une certaine manière, parce que Dieu a créé cette personne, il a voulu cette personne. Et si moi j'enlève la vie de cette personne, je m'oppose frontalement à la volonté de Dieu. Alors déjà, tuer, c'est pas bien, ça fait mal, mais en même temps, je m'oppose tout simplement à ce que Dieu a voulu. Ce sixième commandement rappelle la valeur que Dieu accorde à la vie. C'est tellement beau la vie, tellement difficile la vie, mais c'est tellement beau, elle est tellement importante aux yeux de Dieu. Alors, nous, on va se dire, je n'ai pas l'intention d'aller tuer demain. Maintenant, vous ne savez pas ce qui va arriver après-demain. Il suffit qu'il y ait une guerre, il suffit qu'on vienne assassiner toute votre famille. Je ne sais pas comment ça va être dans votre cœur. Voilà, ne nous disons pas que ce n'est pas forcément pour nous. Mais on pourrait dire qu'il existe plusieurs formes de meurtre, même si ce n'est pas le meurtre par l'acte, mais en pensée, par exemple. Je ne sais pas que vous l'avez jamais fait, mais souhaiter la mort de quelqu'un. Mais sérieusement, il m'a fait du tort. J'espère qu'il crève, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Il y en a beaucoup qui pensent comme cela. Juste en penser, souhaiter la mort, faire des menaces, hein, j'espère que... Ou le mépris tout simplement de la vie, de sa vie, pourquoi pas. C'est pas un acte quelque part, mais on est déjà dans la pensée du meurtre, on pourrait dire, ou d'enlever la vie de quelqu'un. Et si je commence vraiment à penser, souhaiter la mort de quelqu'un, il faut très vite que je me reprenne. C'est grave, c'est très grave quelque part. Sur le plan spirituel, peut-être aussi, on pourrait parler d'une forme de meurtre. Quelqu'un disait, c'est tout ce qui, dans un acte envers autrui, empêche ce dernier de ressembler à Dieu. Je ne sais pas si je relis. C'est tout ce qui, dans un acte envers autrui, empêche ce dernier de ressembler à Dieu. Si moi, en tant que chrétien, je vis tous les jours comme un païen, j'empêche simplement la personne, mon prochain, de connaître Dieu. Moi, je suis sauvé, pas lui. Mais si je vis comme un païen, je lui enlève cette possibilité de vie, quelque part. Alors, ce n'est pas un meurtre directement, mais quand même, je pense que Dieu me reprendra à un moment pour dire « Mais pourquoi tu vis si mal ta vie chrétienne ?» Et regarde, tu n'as aucun témoignage pour ton prochain. Et c'est enlever peut-être cette vie-là. Bon, heureusement que Dieu peut conduire ce non-croyant vers quelqu'un d'autre qui sera un vrai croyant et qui va l'amener à Dieu. Mais quelque part, on retire cette vie que Dieu veut aussi donner. Puis là, empêcher d'aller à l'église peut-être, que le conjoint empêche son autre conjoint ou que j'empêche mes enfants. Enfin, il y a toute formule. J'empêche tout simplement aussi cette vie de rentrer dans le cœur de cette personne. Et je détourne tout simplement de la vie de Dieu. Et c'est triste dans ce cas-là. Alors ce n'est pas un meurtre, on est bien d'accord, ce n'est pas aussi grave peut-être, mais nous sommes des témoins. Le Seigneur veut qu'on témoigne, qu'on lui ressemble. Et donc forcément, si on fait le contraire, ça va empêcher beaucoup de choses. vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est bien triste. Alors, il y a différents moyens de tuer. Il y en a beaucoup de plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Le meurtre, ça a très bien commencé, hein, Jardin d'Éden, Adam et Ève, ils pêchent, il y a Abel et Caïn, deux frères qui s'aimaient, Caïn qui tue son frère, pour pas grand-chose. Et voilà, premier meurtre dans l'histoire. Et pourtant, Dieu lui a dit, hein, calme-toi Caïn, maîtrise tes pensées. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas réussi à maîtriser ses pensées, et il a tué son frère. Il a souffert certainement après, mais vous voyez bien que nos pensées sont avant l'acte. Et si je ne maîtrise pas les pensées, ils peuvent produire des actes. Et ça, c'est dangereux. Donc là, nos pensées sont tellement importantes. Mais aujourd'hui, la mort. Ouvrez la télé. On tue tout le monde, on s'assassine, on s'égorge. C'est tellement banalisé, la mort. Les jeux vidéo, alors là, on se déchiquette. Enfin, moi, c'est horrible ce qui se passe là-dedans, mais c'est tellement banal pour nous. C'est pas vrai, de toute façon. On ouvre les infos, qu'est-ce qu'il y a? Encore Daesh, encore des morts, encore si. En fait, on a tellement banalisé la mort que, quelque part, ça ne nous touche presque plus. Enfin, je pense que quand quelqu'un décède, ça nous touche, mais quand même, on est arrivé à un stade assez curieux. Ça, c'est le meurtre. Une autre forme ou un autre moyen de tuer, c'est le suicide. Et ça, ça se répand de plus en plus aujourd'hui. C'est le grand piège du diable qui, dans un espèce de tourbillon de dépression, va vous emmener jusqu'à ce stade ultime où vous avez envie de ne plus vivre, tout simplement. J'ai vécu ça autrefois quand j'étais pas chrétien. C'est une vraie spirale et vous savez pas ce que vous faites, en fait. Heureusement que le Seigneur m'a préservé, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Un docteur disait c'est la privation d'amour qui blesse mortellement. Et s'il y a beaucoup plus de gens qui se suicident aujourd'hui, c'est certainement parce qu'il y a de moins en moins d'amour dans notre société, dans la famille, avec les enfants, etc. Et les gens, désespèrent. Il n'y a plus vraiment d'espoir, donc forcément, ils se tuent. Ce qui est pire, c'est que c'est notre jeunesse qui se suicide de plus en plus. J'avais vu sur une application, mais le suicide, c'est une mort toutes les heures en France. Près de 8900 en 2014 en France, soit 6661 hommes et 2224 femmes. Ça fait 24 suicides par jour en France. Vous imaginez? Et c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans après les accidents de la route. Tous ces gamins qui... Alors maintenant, c'est en plus des défis sur les réseaux sociaux, on s'amuse pour mourir. Mais bon, c'est quand même à réfléchir quelque part. Pourquoi est-ce suicide? Il n'y a plus d'éducation, il y a un manque de repères, il y a un manque profond d'amour, ça c'est clair. Hein. Mais tous ces gamins qui quittent la vie comme ça. Alors là, c'est évidemment les parents qui sont à blâmer, certainement. La société aussi, quelque part. Les réseaux sociaux, ça, j'en suis convaincu. Mais bon, voilà, c'est un constat. Et peut-être, des fois, on regarde nos jeunes, ah, t'as vu comment ils sont, mais ils souffrent peut-être, au fond d'eux. Quelque chose de terrible, que nous ne pouvons même pas comprendre. Hein. Moi, à mon époque, quand on était jeunes, les parents nous regardaient un peu bizarre. J'étais gothique, forcément, ils nous regardaient bizarre. Mais il y avait une souffrance, au fond. Mais aujourd'hui, je crois que cette souffrance, elle s'est amplifiée et va s'amplifier de plus en plus parce qu'il n'y a plus aucun repère. Avant, il y avait peut-être encore l'Église, entre guillemets, avec une éducation chrétienne, mais aujourd'hui, tout ça, c'est balayé. Et même des chrétiens se suicident. J'ai connu deux anciens qui s'étaient suicidés, deux pas responsables d'Église. Hein. On peut se demander, est-ce qu'ils vont aller au ciel? Moi, je pense que oui, parce qu'à partir du moment qu'on est né de nouveau, on est justifié et donc on est sauvé, mais après, pour les récompenses, on verra. Et puis c'est entre Dieu et eux. Et pourquoi on en arrive à ce point-là? Ça, c'est une grosse question que je me pose, surtout quand on est responsable d'une église. Et si un jour, vous avez des idées comme ça, venez tout de suite me voir. Parler, discuter. Généralement, quand quelqu'un veut se suicider, il n'en parle jamais. C'est fait. Mais ne vous laissez pas prendre par le diable. Il peut nous arriver un tas de choses dans notre vie qui peuvent nous faire traverser ce genre d'idées, parce qu'on est vraiment désespéré. Même en tant que chrétien fidèle, mais il ne faut pas se laisser avoir par ça. Et il faut parler tout de suite, il faut s'entourer, il faut faire quelque chose. Autre forme de tuer les gens, l'avortement. Je ne vais pas m'entendre, mais je peux me faire lyncher parce que je vais dire, mais il y a près de 50 à 60 millions de bébés par an qui sont avortés. Et encore, je pense que c'est des vieux chiffres, ça. Tout ça parce que Dieu a demandé que la sexualité se fasse dans le cadre du mariage. Évidemment, on a dit, nous, on sait comment il faut faire. Enfin, je parle des hommes, des femmes, qui ne veulent pas de Dieu. Et forcément, toutes ces choses-là arrivent, débarquent. Et, je suis enceinte. Allez, on avorte. Et un autre, et un autre, et un autre. Je ne sais pas si un jour, ces gens vont être devant Dieu. comment ils vont être, franchement. Mais si ces bébés, enfin ces embryons, ces bébés meurent, quelque part, c'est tout simplement à cause de la désobéissance des êtres humains. Parce qu'on ne veut pas faire ce que Dieu demande, tout simplement. Dieu a créé la sexualité, et là je le rappelle même aux chrétiens, dans le cadre du mariage, hein, pas en dehors, dans le cadre du mariage. À partir du moment que je ne veux pas faire cela, je vais pécher, et comme dit Jacques, le péché conduit à la mort. Ma mort, mais hélas, des fois, ça conduit aussi à la mort de ces pauvres bébés. Puis l'euthanasie, ça c'est la grande mode aujourd'hui, j'ai le droit de mourir quand je veux. Le mot euthanasie veut dire une bonne mort. Je ne sais pas s'il y a une bonne mort, hein, je vous dirai ça quand je partirai, mais je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne mort, mais c'est l'homme qui ne veut absolument plus du regard de Dieu sur sa vie. C'est moi qui décide quand je meurs. C'est prendre le droit de Dieu sur moi, tout simplement. Pourtant, dans Luc 12, 20, il disait, mais Dieu lui dit à cet insensé qui s'amassait des richesses, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est Dieu qui décide du départ. Ce n'est pas à moi de décider de ce départ-là. Et si je le fais par le suicide ou par l'euthanasie, parce que pour moi, l'euthanasie, c'est une forme de suicide aussi, hein, je suis désolé de le dire, ben, quelque part, je prends le droit de Dieu sur moi. Vous savez, je ne suis pas un grand spécialiste là-dedans, mais je suis sûr que des fois, peut-être au lieu d'euthanasier, si on priait, si on attendait, peut-être des fois, des gens guériraient. Mais ça, on ne pourra jamais le savoir. Alors évidemment, il y en a qui sont dans les difficultés, il y a l'acharnement thérapeutique, on peut en discuter en long et en large, c'est clair, on est d'accord. Mais des fois, je crois que la souffrance permet aussi d'être purifié par Dieu. Voilà. Donc je sais que ce n'est pas évident ce que je dis là, la souffrance c'est terrible de la voir. D'abord, vous savez, quand vous regardez quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital, c'est vos sentiments, ce n'est pas ce qu'il éprouve lui forcément. Alors, je sais qu'il y en a qui souffrent, mais attention de ne pas comparer non plus. Et puis Dieu est là, je pense. Et qui sait si dans un coma, Dieu n'est pas en train de parler à quelqu'un? Qui sait, hein? Il y a peut-être des pensées, parce qu'il paraît, ils sont conscients, donc Dieu peut aussi travailler le cœur à ce moment-là de cette personne. Mais c'est surtout ce droit, c'est le droit de perdre la vie, il revient à Dieu, il ne revient pas à moi, tout simplement. Et puis il y avait une autre forme dans l'Ancien Testament, c'était la légitime dévance, parce qu'il arrive que peut-être en coupant du bois, alors aujourd'hui on n'a plus de hache, mais à l'époque, il y a la partie de métallique qui part et qui a tué le gars qui travaillait avec moi derrière, mais je n'ai pas voulu sa mort, ce n'est pas prémédité. Et il y avait dans Nombre, par exemple, et c'est Josué qui va instaurer cela, des villes de refuge où on protégeait surtout ces gens-là du vengeur de sang qui voulait aller tuer parce qu'il avait tué quelqu'un dans la famille. Mais Dieu voit bien que ce n'était pas un meurtre volontaire. J'espère que ça ne nous arrivera jamais de tuer quelqu'un en voiture ou je ne sais pas, parce que ça peut nous arriver aussi. Mais si ça vous arrivait de faire perdre la vie à quelqu'un sans que vous l'ayez voulu, parce que ça arrive, hélas, il ne faudra pas passer de votre vie à culpabiliser non plus. Alors ça, c'est facile à dire, je le comprends, mais ça sera un bon piège du diable pour vous emmener dans cette vrille aussi, hein, pour vous faire déprimer au maximum. Ça peut arriver. Prions avant de prendre la voiture. Moi, je prie tout le temps pour que je n'ai pas d'accident. Je n'ai pas envie de faire de mal aux autres. Prions dans notre activité. Remettons tout ce que l'on fait au Seigneur. Et le Seigneur, évidemment, nous préservera. En tout cas, ce commandement nous dit que la vie est importante et que nous devons respecter la vie que Dieu a créée et en même temps respecter la vie de notre prochain, évidemment. Vous n'avez pas tué quelqu'un, j'espère. Vous n'avez pas envie. Amen. Mais je pense surtout à cet aspect spirituel. Soyons des témoins. Ne privons pas les autres, peut-être de notre témoignage, de voir Jésus-Christ en notre vie, de notre façon d'être qui est complètement différente du monde, pour que d'autres aient soif de connaître ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens. Pour terminer, on l'a compris, ce commandement ou ces commandements parlent de respect. Et tant que je ne respecte pas Dieu, comme on avait vu la dernière fois, je ne sais pas si je vais forcément respecter mon prochain. Parce que, d'abord, je n'aurais pas envie, parce que moi, en tant que chrétien, je sais que c'est Dieu qui me le demande. Mais si je respecte Dieu profondément, je vais aussi profondément respecter mon prochain. Le Nouveau Testament nous dit même mon ennemi, celui qui m'énerve. Mon collègue saoulant, hein, mon patron qui m'énerve, je dois le respecter. Sachons aussi nous reposer en Christ pour être transformés, prendre ce temps de repos en Christ, quotidiennement, mais régulièrement, comme on avait vu le dimanche, et en même temps se laisser transformer par Dieu dans ce repos. Et puis, vous savez, quand on commence à obéir à Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'obéissez pas à Dieu. Quand on obéit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? On est heureux? Mais oui, Je sais pas, moi je regarde en arrière, autrefois quand j'obéissais pas à Dieu, j'étais profondément malheureux dans ma vie. Maintenant, et plusieurs fois je me suis dit ça cette semaine, quand on obéit au commandement de Dieu, quand on obéit à ce que Dieu nous demande, finalement, tout ce qu'il nous fait dans notre cœur, c'est nous mettre de la joie, nous mettre de la paix. On ne se rend pas compte comme on est maso parce qu'on aime la chair, le péché. Mais en fait, quand on retire toutes ces choses-là, Dieu, il veut simplement mon bonheur. Il ne veut pas que j'obéisse pour obéir. Il me dit, sois heureux, tout simplement. Est-ce que vous voulez être heureux ? Ben, respectons tout simplement le Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour ces commandements, même si nous ne sommes plus sous la loi aujourd'hui, mais en tant que chrétiens, nous sommes capables de vivre justement cette loi. Et je te prie pour ce sabbat que nous n'avons pas respecté comme le faisaient autrefois les Juifs, mais dans lequel nous sommes rentrés pleinement. Apprends-nous à mieux le connaître, peut-être. Apprends-nous aussi à nous laisser transformer par toi. Apprends-nous à prendre du temps aussi pour toi, pas forcément que le dimanche, mais un temps que nous voulons aussi te consacrer pour te contempler, Seigneur, pour avoir de la reconnaissance, pour t'adorer, Seigneur. Mais aussi prendre le temps ensemble, frères et sœurs, dans cette communion fraternelle que tu as tant désirée pour recharger nos batteries, pour repartir de plus belle pendant ces 6 autres jours que tu nous as laissés pour nos activités. Seigneur, je te prie aussi pour l'éducation de nos enfants et tu sais que c'est un grand combat aujourd'hui pour les chrétiens dans cette société, mais rien ne t'est impossible, Seigneur. Et je te prie que les parents chrétiens et les enfants chrétiens puissent se respecter l'un et l'autre, trouver dans ta parole les bonnes paroles, justement, les bonnes éducations pour que tout cela se fasse pour ta gloire et que nous puissions amener ces enfants aussi à te connaître et qu'ils fléchissent un jour le genou devant toi et t'acceptent dans leur vie. Seigneur, nous avons parlé du meurtre et tu vois combien le monde banalise ce meurtre de plus en plus et ne le réalise pas et peut-être fait que nous soyons encore cette voix qui crie dans le désert et qui peut-être se fait plus tellement entendre, mais malgré tout que nous puissions prendre position par rapport à toutes ces situations difficiles et complètement folles que l'homme est en train de prendre. En tout cas, apprends-nous surtout à te respecter, Seigneur, et derrière nous respectons aussi notre prochain. Apprends-nous à aimer notre prochain pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen. Amen.